Donc bonjour à tous. Donc moi je travaille sur les catastrophes naturelles, essentiellement sur les crues de la Seine et depuis quelques temps grâce aux cyclones justement, sur les Caraïbes, donc ce qui est assez sympathique. Alors juste pour répondre à la question, il y a quelqu'un qui a parlé les cyclones et les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles ne sont pas désirables. Non, les cyclones oui, mais les catastrophes naturelles pas du tout. On ne souhaite absolument pas qu'il y ait des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut avoir des cyclones sans catastrophes naturelles. Alors moi, justement, ce dont je vais vous parler là, c'est de la méga catastrophe naturelle qui nous attend, avec beaucoup de guillemets dans naturel. Mais vous verrez, si vous venez assister au cours du CRS et du département de géosciences, que les catastrophes naturelles ne sont pas forcément naturelles, en tout cas, selon ce qu'on appelle la nature. Et donc, je vais vous parler de cette histoire de changement climatique dont vous entendez beaucoup parler à travers une approche de géopolitique. Alors, avant de commencer, comme je suis une littéraire de formation, moi, je vais vous donner un peu de lecture. Alors, il y en a certains, c'est plutôt sympa, ça se lit encore au bord de la piscine. D'autres, vous verrez, c'est moins boulébile, quoi. Il y a des, voilà. Mais là, vous avez trois types d'ouvrages. Alors, il y a une littérature abondante qui, justement, tente de faire passer en direction du grand public plus ou moins éclairé les enjeux de ces questions climatiques. Parce que le problème de ces questions climatiques, c'est que autant quand vous êtes un chercheur dans votre laboratoire, vous mangez, vous dormez, vous vivez quasiment avec elles, vous connaissez les cyclones par leur prénom, vous savez comment ils se forment, vous connaissez toute leur vie intime, vous êtes capable de raisonner à des échelles en journées, en mois, et puis là on a parlé de milliers d'années, de millions d'années. Vous imaginez bien que l'individu lambda, lui, le changement climatique, il ne le voit pas et il ne peut pas le voir. C'est un double paradoxe, c'est que, vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une voiture, vous êtes dans la voiture, puis vous regardez ce qui se passe autour de vous, bon, en fait, vous ne voyez rien. Vous voyez des voitures qui passent sur les côtés, l'accélération du trafic, globale du trafic, vous ne la voyez pas. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui passent un peu plus vite à droite et qu'il y a des gens qui passent un peu moins vite à gauche. Enfin, je suis délatéralisée, hein. Je suis une fille, donc c'est à droite, à gauche, c'est pareil. Mais enfin, vous voyez, bon, globalement, quand même, voilà, quoi, ça, vous êtes dedans. Alors, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils essaient de sortir de la voiture, pour regarder ce qui se passe. Mais pour un individu du quotidien, bah, il ne voit pas ça. Ce qu'il voit, lui, c'est il fait chaud, il fait froid. Et à la rigueur, si vous plantez des tomates ou si vous avez des fleurs, vous pouvez se dire, bah, tiens, là, elles ont fleuri un peu plus tôt, un peu plus tard. Ah, bah, tiens, c'est bizarre, ça fait 10 ans que la fontaine au Luxembourg, y a plus, elle n'est plus gelée. Mais en même temps, 10 ans comparé à 10 000, 100 000 ans, qu'est-ce que c'est, quoi. Et donc tout l'enjeu des sciences sociales, ça va être d'arriver de vous expliquer pourquoi vous, alors que vous êtes en train de voir dans votre laboratoire qu'il y a quand même un truc qui pue un petit peu, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien, ou du moins quand même pas grand-chose. Et c'est la question que vous avez posée, bah, comment je fais à sortir du laboratoire pour dire? Parce qu'en plus, vous allez voir, ce n'est pas facile. Alors, pour vous faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'abord, on a un truc qui s'appelle un changement de représentation qui est lié justement à l'évolution des sciences. Pendant très longtemps, ce qu'on appelait la climatologie, en fait, c'était un peu mélangé avec de la météorologie. C'est pas exactement la même chose. La climato, on travaille sur des processus, du temps long. La météo, c'est quel temps il fait aujourd'hui, quoi, en gros. Et souvent, d'ailleurs, vous voyez à la télévision, hein, c'est le météorologue qui vient vous parler de changement climatique parce que lui, il sait parler devant les caméras. Et c'est comme ça qu'on a eu quelques grands météorologues climato-sceptiques extrêmement populaires qui ont raconté n'importe quoi pendant des années. Donc, on allait faire du relevé de température ici et maintenant. Alors, on continue à le faire. Hein, et ça permettait notamment de produire ces cartes que vous avez peut-être vues dans vos manuels, vous savez, avec les diagrammes ombrothermiques. Alors, on vous disait, à Nice et à Paris, en fait, il y a le même nombre de jours de pluie. Enfin, c'est pas le même nombre de jours de pluie, justement, hein, mais il y a quand même le même nombre d'eau précipitée, tout ça. Alors, on apprenait ça. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on a ça. On a ces fameux modèles qui nous permettent de voir la Terre. Voir la Terre, ça vous paraît évident, je vous assure, c'est un truc, vos grands-parents, ils n'avaient jamais vu la Terre. Même s'ils sont très jeunes, la Terre, en gros, on la voit en global la première fois dans les années 70. Lisez Tintin, si vous regardez Tintin qui part sur la Lune, il y a effectivement une planète Terre. Quand vous regardez la planète Terre, en fait, c'est une carte géographique, il n'y a même pas de nuages. Caroline, elle ne peut rien faire, allez, ça y est, c'est foutu, il n'y a pas de nuages. Donc, on a ces modèles, on a quelque chose d'assez fascinant qui est un globe. Un globe, ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est le monde. Vous savez, la surface, voilà. C'est... Alors là aussi, le monde, bah oui, mais je vous signale que nos copains les Romains, le monde, il se limitait quand même à pas très loin. Il y avait le monde chinois, mais il n'y avait pas le monde. Et qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui, le monde, ils ne le connaissent pas. Parce que prendre l'avion, bah, c'est compliqué. Et en plus, il y a un deuxième truc, et alors ça, c'est vraiment pas cool. C'est que ce globe, c'est un système. Il est complexe. Complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est compliqué, mais c'est plus que compliqué. Pour vous faire comprendre la chose, compliqué, c'est un éventail. Un éventail, il vous suffit de le déplier. Et pli par pli, vous allez pouvoir expliquer. Vous êtes à l'ENS, on va faire du latin. Explicare, ça veut dire déplier. Vous faites de l'analyse et de la synthèse, vous découpez. Vous réduisez le problème, vous savez, à un plus petit problème et encore un plus petit problème, encore un peu petit problème. Après, vous mettez tout ensemble. Vous avez toujours votre éventail. Maintenant, vous prenez un tapis. Tout est tissé ensemble. Si vous voulez comprendre comment ça marche avec le tapis, vous êtes obligé de tirer le fil. Et là, il n'y a plus de tapis. Et donc, tout interagit et tout est en interaction, sauf que dans ces systèmes, le problème, c'est que tout ne réagit pas à la même vitesse et à la même échelle. Et qu'en plus, là-dedans, vous devez rajouter du temps long sur des trucs invisibles, imprévisibles, hyper compliqués, parce que ça demande quand même beaucoup de culture scientifique. Vous avez vu, on a déjà des spécialistes de tas de trucs, et tous les spécialistes sont spécialistes d'un petit machin. Et vous demandez à des individus lambda de se prononcer là-dessus. Et vous commencez à comprendre que ça devient extrêmement compliqué du point de vue des sociétés. Ça ne veut pas dire que les gens sont des imbéciles. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir trouver une façon d'expliquer le complexe. Et ça, c'est très compliqué. Or, vous savez tous que le problème du changement climatique, c'est un gros problème global. Il touche le monde entier dans cette dynamique systémique. Ah oui, mais on a un petit problème. C'est que malheureusement ou heureusement, ça on pourra en discuter, il n'y a pas de gouvernement mondial. Vous n'avez pas un chef du monde. L'avantage du chef, c'est qu'il décide. Vous voyez ? Vous avez le pouvoir, vous décidez. Alors après, vous pouvez le faire de façon plus ou moins démocratique. Bon, ça prend plus c'est démocratique, plus ça prend du temps. Hein. Mais enfin, vous, voilà. Mais là, il n'y en a même pas. Vous voyez, le monde, il est divisé en États-nations qui ont chacun des intérêts particuliers. Et d'ailleurs, c'est très logique puisque vous élisez les représentants du peuple pour servir l'intérêt général, mais qui est l'intérêt de votre pays. Je vous rappelle qu'on a gagné la Coupe du Monde cet été, vous en souvenez? On est certes tous copains, mais enfin, on était quand même super bien contents d'avoir mis la main en mer aux Croates. Enfin, voyez. Hein, bon, voilà. Même si c'était compliqué. Alors, déjà, c'est compliqué parce qu'on a un problème global. On a un monde qui est complètement divisé avec des intérêts particuliers. Et vous allez voir qu'il y a quand même des rapports de force dans ces intérêts. Hein. Tout le monde n'est pas le chef au même niveau. Il va falloir se mettre d'accord. Et alors, en plus, vous n'avez pas de chance parce que, il y a très longtemps, au siècle dernier, le monde avait eu la bonne idée d'être divisé en deux blocs. Il y avait les gentils à l'ouest et les méchants à l'est. Bon, si vous aviez été à l'est, c'était l'inverse. Puis vous aviez un truc, le tiers-monde, mais on s'en fout pour l'instant. Hein, ils sont pauvres et puis tout ça. Alors certains, ils voulaient pas s'aligner, d'autres, tout ça. Mais en gros, on avait les gentils, les méchants, vous les inversiez. Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle le monde multipolaire. C'est horrible. Vous avez des tas de puissances qui montent partout. Des Chinois, des Russes, des Indiens, des Brésiliens, etc. Voilà. Nous, on est vieux, en plus, on est la vieille Europe. Enfin, on ne comprend plus rien. On avait un centre de gravité qui était sur l'Atlantique, l'OTAN. Maintenant, il passe au Pacifique. On avait des trucs dans le sud, l'hémisphère sud. Personne ne savait où c'était, d'ailleurs, on ne dessinait même pas sur les cartes. Maintenant, vous avez des tas de choses dans l'hémisphère sud qui se passent. Il y a même des pays en Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays. Hein. Attention. Il y a même des pays en Afrique, genre l'Afrique du Sud, qui veulent... Vous voyez ? Donc, c'est très, très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que derrière cette multipolarité, vous avez des inégalités extrêmement fortes. En termes de développement, pas seulement de richesse, mais d'accès à la justice, d'accès au savoir, d'accès aux technologies, d'accès à tout ce qui permet aujourd'hui dans nos pays développés de pouvoir faire avancer les sciences et de pouvoir précisément se protéger des catastrophes naturelles. Et donc vous devez gérer un problème global dans un monde divisé, inégalitaire et complexe. Alors, on a trouvé un truc génial qui s'appelait l'ONU. L'ONU, c'était très bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, quand il y avait les gentils, les méchants, le truc au milieu. Bon, parce qu'il y avait une partie qui venait pas, vu que c'était les méchants. Et puis, une autre partie, bon, on arrivait entre... Il y avait les États-Unis qui étaient quand même comme ça, et donc on se mettait d'accord. Et donc, on a trouvé la seule arène qu'on a de gouvernance, et je dis bien de gouvernance et pas de gouvernement, c'est la scène onusienne. Cette scène onusienne qui est une scène de négociation, et vous connaissez, hein, c'est l'endroit où, par exemple, vous avez l'Arabie Saoudite qui s'occupe des droits de l'homme. Vous voyez, bon. C'est l'endroit où vous avez le Conseil de sécurité avec un veto. Donc le temps qu'on décide que la Syrie, quand même, ça la fout mal, il y a des ch'tis d'enfants qui sont en train de mourir, alors ouais, mais moi je suis pas d'accord, moi je suis machin. Et donc on a inventé l'ONU. Alors l'ONU, c'est hyper important. Parce que l'ONU, d'abord, c'est un lieu de rencontre entre des États souverains. Et c'est un lieu où on peut négocier et discuter en fonction de rapports de force. Le problème de l'arène onusienne, c'est que ces négociations, ça prend du temps. On a, Christian vous en a parlé, hein, avec le CERES, on a, et grâce à l'action de Luca Paoli, on va pouvoir avoir des badges pour aller à la COP 24 et dans les années suivantes assister aux autres COP. Qu'est-ce que c'est qu'une COP ? C'est un endroit où on va rédiger des textes qui sont supposés engager juridiquement les États. Pou, 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 pou. Bon. Supposé. Des fois, ça marche, hein, parce que si on ne les avait pas, on serait encore plus dans la panade. Le problème, c'est que vous voyez, dans l'image idéale du monde tel que moi j'aimerais qu'il soit, il y a un scientifique, il vous dit là, il y a un gros monstre qui arrive, vous voyez, ok, je vais prévenir les gens qui nous dirigent, il y a un gros monstre qui arrive, on sort Bruce Willis ou je sais plus qui c'est maintenant, il envoie machin, on bute le monstre, et puis c'est bon, on est tranquille. Ça se passe pas comme ça dans l'arène onusienne. Et notamment quand vous regardez comment les textes des COP, notamment l'accord de Paris, sont négociés, vous voyez ce qu'on appelle les petites parenthèses, les brackets. Et donc, on va négocier. Alors, on a des tas de chambres de négociation officielles, pas officielles, où on va, mot par mot, travailler sur des textes qui sont des textes de diplomates. Ce n'est pas les rapports du GIEC qu'on traduit dans les accords. C'est des traductions de traductions de traductions qui reflètent en réalité des rapports de force inégalitaires sur la scène internationale. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation ubuesque où la seule arène de discussion qu'on ait et de négociation, ce sont ces arènes onusiennes, qui sont absolument fondamentales parce que sans elles, on ne pourrait rien faire, et qui sont dans le même temps absolument insuffisantes pour qu'on arrive à faire des choses à la hauteur de la rapidité des phénomènes qui nous menacent. D'autant que vous êtes bien d'accord, tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité des phénomènes qui nous menacent. Et que ce n'est pas parce que, au niveau onusien, vous avez décidé que vous avez limité à 2 degrés, qu'ensuite dans les pays, puis dans les villes, puis à l'échelle individuelle, les gens vont appliquer ce qui se passe. Alors, pour venir à cette gouvernance climatique, vous avez aujourd'hui deux options. Ces options, elles sont apparues dans le rapport du GIEC, et c'est ce qui fait aussi la transition entre l'école scientifique que vous êtes et l'école littéraire et les sciences sociales, c'est qu'à un moment, il y a comme des gens. C'est très, vous pouvez étudier les phénomènes pour eux-mêmes, mais sous le cyclone, il y a ceux qui sont au-dessus et puis il y a ceux effectivement qui sont en bas, et vous avez aussi des vidéos assez flippantes, hein, vous les trouvez sur YouTube, de ce qui s'est passé pour les gens qui étaient sous Irma au moment où il est passé. Et dans les rapports du GIEC, on a vu émerger deux réponses au changement climatique. La première réponse, vous la connaissez tous, on en a beaucoup parlé, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, la mitigation. C'est le fait d'essayer de contenir le processus. Alors le problème, c'est que c'est un peu comme les cyclones, on a des solutions, mais ces solutions, elles sont difficiles. Pourquoi ? Parce que dans le cas du changement climatique, si on admet que le changement climatique est lié à une augmentation des gaz à effet de serre, et vous êtes bien d'accord que quand on regarde certains climato-sceptiques, ce n'est pas encore complètement gagné, ça veut dire qu'il faut transformer en profondeur nos modes de production et nos modes de vie. Et ça, ça a des coûts extrêmement importants, qui vont se répercuter certes sur les populations, mais aussi sur l'ensemble des systèmes économiques de la planète. Et donc avant d'arriver à la mitigation, il y a du temps. Et donc, bah, le temps, il passe. Et l'urgence, alors j'aime pas l'idée d'urgence parce qu'il y a un... Mais en tout cas, il est en train de se passer quelque chose et il faut agir. Et donc, on a vu émerger une autre notion qui est celle de l'adaptation. Si on ne peut pas empêcher le cyclone, on peut quand même faire en sorte de se préparer sur l'île, sur Saint-Martin, sur Saint-Barthélemy, pour faire en sorte que quand ça tape moins fort. Ça va toujours taper fort, si vous voulez, mais nous, on ne sera pas blessés. Et donc, c'est l'adaptation. Cette adaptation au départ, et ça aussi c'est les merveilles de la géopolitique, elle avait été demandée par les pays des Sud. Vous savez, c'est ce tiers-monde dont on ne parlait pas. Qui disait quand même, les gars, vous êtes un peu sympas, mais bon, en gros, les pays développés, ils se développent, un, en nous piquant nos ressources, ça s'appelle la colonisation, et deux, en polluant à toute blinde. Et maintenant que vous avez foutu le bazar, vous venez nous voir, vous nous dites, les gars, alors, vous n'allez pas pouvoir vous développer non plus, hein, parce qu'en fait, changement climatique. Bon, ils sont méchants, hein. ils sont pauvres, en plus ils font n'importe quoi, ils se reproduisent comme des lapins, enfin c'est horrible, enfin quand même quoi. Et donc, les pays des Sud ont dit, bah, d'accord, on veut bien faire des efforts, mais vous allez devoir aussi nous faire un petit peu de transfert de technologie, par exemple. Parce que si vous voulez qu'on ait des voitures moins polluantes, il faudrait peut-être déjà, un, qu'on ait des voitures, et deux, que vous nous transfériez les technologies pour nous apprendre à faire que ça soit moins polluant. Les ingénieurs que vous nous piquez, tant pis, restent chez vous. Mais au moins, transférez-nous les technologies. L'adaptation dans cette merveilleuse machine qui est la géopolitique internationale, dans une certaine lecture, a été transformée en une autre lecture, qui est l'air de dire « Bon, ok, on peut rien faire, les gars, c'est fini, c'est foutu. Hein. » Tant pis. Par contre, les gens, ils vont s'adapter. Hein. Les gens, hein, pas les États. Les gens, ils vont s'adapter. Bah, quand il fait froid, vous allez mettre un pull au vert. Et puis, bah, quand il pleut, vous allez apprendre à nager. Et si vous le faites pas, c'est pas bien. Si vous faites pas, c'est pas bien parce que vous êtes pas gentil, vous voulez pas vous adapter, hein. Mais c'est normal, vous êtes dans le sud et vous avez jamais voulu. Et vous avez là derrière des représentations, des stigmatisations, des injonctions morales qui vont se mettre en place et qui font que du coup, bah, vous allez avoir des enjeux très forts de négociation. Parce qu'évidemment, l'adaptation, c'est un argument pour ceux qui ne veulent pas faire de la mitigation. Et de non, surtout ne faisons rien, continuons comme avant, mais inventons la voiture électrique. Double bénéfice, hein, parce que vous faites du coup payer les voitures électriques à ceux qui peuvent se les acheter, et effectivement, vous réduisez les gaz à effet de serre, alors sauf qu'en fait, pour faire de l'électricité, là aussi, rien n'est jamais simple, hein, il faut quand même en produire. Bon. Et là, eh bien là, justement, on retombe sur la question de ces fameux rapports de force dont je vous parle et qui sont le cœur de la géopolitique. C'est que, avec l'évolution post-guerre froide, oui, le mur est tombé, vous savez, du coup, maintenant, voilà, donc il y a tout le monde multipolaire. Eh bien, on a des nouvelles coalitions d'intérêts qui se forment, avec de nouvelles puissances qui émergent. En particulier la Chine, que vous connaissez, en particulier l'Inde. Et tous ces pays émergents sont de très forts émetteurs de gaz à effet de serre. Et là, d'emblée, il y a un petit truc. Est-ce que vous regardez les émissions totales ou est-ce que vous regardez les émissions par tête? Parce qu'évidemment, quand vous avez un milliard de gugus... Et nous, on doit être combien maintenant? 63 millions. Si tous les Chinois consommaient autant que les Américains, là, on serait extrêmement mal. Et quand vous regardez les classements, vous voyez par exemple que si on prend en tête des émissions globales, vous avez les États-Unis, la Chine arrive derrière, mais si on le fait par tête, ça change tout. Et du coup, la négociation va porter jusque sur « mais qui doit faire quoi ?» Et comment est-ce qu'on mesure? Et donc, tout à un moment, on va négocier et va évidemment être négocié à travers le rapport de force. Quand vous êtes le président, alors c'est pas le président, mais enfin, de la Chine, c'est pas la même chose que quand vous êtes le chef des Kiribati. Mais quand vous êtes le chef des Kiribati, vous pouvez vous associer avec d'autres îles et vous faire protéger par la Chine contre les intérêts de puissance qui, elles, se fichent complètement de votre existence. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est Game of Thrones, si vous voulez, hein. Winter is coming. Vous avez des coalitions d'intérêts dans tous les sens. Et regardez le changement climatique, qui a priori devait être quelque chose de complètement consensuel. Hein. Il y a deux trucs consensuels. Vous êtes tous pour la paix dans le monde. Vous avez vu comment ça marche avec l'ONU. Vous êtes tous pour que la planète soit sauvée. Vous avez vu comment ça marche. Mais ces questions qui devraient être tellement consensuelles, en fait, ne le sont pas. Et regardez la géopolitique du climat, c'est comprendre très précisément ce qui est en train de se passer du point de vue de la géopolitique internationale. L'évolution des rapports de force, l'émergence de nouveaux acteurs, par exemple les ONG, l'émergence des secteurs privés, le fameux jeu des lobbies dont vous avez beaucoup entendu parler, les personnes, les associations, les femmes, il y a aussi des femmes dans cette histoire-là, et je vous assure que les femmes, elles sont très très mal barrées avec le changement climatique. Alors le problème, c'est que ce changement climatique, paradoxalement, il est aussi très 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 marketing. Parce que le changement climatique, c'est bien, c'est mal, machin. Et que du coup, derrière, le changement climatique est en train de phagocyter l'ensemble des problèmes sociaux, politiques et économiques qui se posent aujourd'hui sur la planète. Par exemple, le développement durable. Le développement durable, vous n'en entendez plus parler. On a dû vous bassiner avec ça en seconde. Là, alors, il y a bien les ODD qui ont été votés dans le changement climatique. La biodiversité maintenant, changement climatique. Les risques et catastrophes naturelles, changement climatique. Moi, quand je veux des sous, je mets changement climatique, même si ça n'a aucun rapport avec la choucroute. On en est à parler de séisme et de changement climatique parce que pourquoi? Parce que ce problème est devenu une telle préoccupation et une telle chambre d'écho chez les populations et dans les opinions publiques, en tout cas dans les milieux cultivés qui votent dans les démocraties, que finalement, on va tout regrouper là-dessous. Ce qui pose aussi des problèmes parce que vous avez des associations, vous avez des acteurs internationaux qui se battent depuis des années, par exemple, pour l'aide au développement, et l'aide au développement ne se résout pas au changement. Ce n'est pas que le changement climatique. problème, c'est que derrière ça, vous avez aussi les problèmes de court terme. Parce que moi, je veux bien vous parler d'un truc qui va se passer dans 50 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quand je suis au chômage aujourd'hui et maintenant. Le gars qui est dans la rue, là, et qu'on enjambe tous les jours, comme, vous savez, devant l'ONS, il y en a un qui est là. Lui, son problème, c'est de savoir où il dort ce soir, comment il se lève et comment il mange. Et le problème de la survie, c'est un problème qui est mondial. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui vont faire demain, y compris en France, où vous avez des milliers de gens qui sont dans des situations de précarité extrêmement importantes. Et donc, ces enjeux économiques de court terme, et vous avez entendu le discours du ministre qui a démissionné, ils sont problématiques. Parce qu'il va falloir conjuguer l'économique, le social et l'environnemental, sachant que là aussi, tout est lié. Oh, du péage urbain à Paris, comme ça, il n'y a plus de voitures. Mais comment ils font, les pauvres, pour venir à Paris, où il y a du travail? Moi, je veux bien manger bio. Vous avez vu le prix de la tomate bio? Vous pensez vraiment que le smicard, il va s'acheter des tomates bio? Alors, vous me direz, ça résoudra le trou de la sécu. Il va mourir plus jeune. Enfin, quand même. Et puis, vous avez la défense des intérêts particuliers. Ben, on peut comprendre quand même que les Russes, c'est cool le changement climatique. Alors, d'accord, ça va poser plein de problèmes en Sibérie, tout ça. Mais l'Arctique, quoi. Vous avez vu ce qu'il y a en Arctique? Orgie totale. Open bar. L'Arctique. Le vignoble, alors ça va être terrible pour le bourguignon, hein, ça, acheter du Bourgogne. Par contre, en Angleterre, ils commencent à se frotter les mains. Hein. On va pouvoir remettre du vignoble. Il y a des gagnants et des perdants. Quand vous regardez globalement, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui perdent. Et les perdants vont perdre beaucoup. Et les perdants, c'est ceux qui ne parlent pas, c'est ceux qui n'ont pas la voix, c'est ceux qui n'ont pas la puissance. Et puis, en dernier point, je vous ai dit, c'est invisible, c'est irréversible, c'est imprévisible et c'est incertain. Tout ça, ça fait que de toute façon, pour convaincre les politiques, les acteurs de terrain et les populations, c'est extrêmement difficile. Alors vous avez vu, en plus c'est soumis aux aléas, j'allais dire climatiques, mais politiques. Nous ne sommes pas maîtres des élections. Alors, bon, j'aime pas parce que les gens qui critiquent, les gens qui sont mal coiffés avec des tignasses rousses, je trouve que c'est un peu abusé. Mais quand même, vous avez vu ce qu'a fait Trump, vous avez vu ce qui se passe et c'est pas très encourageant. C'est pas très encourageant, sauf que la géopolitique, elle se passe pas qu'à l'échelle internationale. Je sais pas si vous avez vu, au moment où Trump nous sortait ses abominations, le complot des Chinois, je sais pas trop quoi. Il y a aussi un séminaire fake news au CERES, hein, si ça vous intéresse, vous verrez, c'est vachement bien. Vous avez vu des villes, et notamment des villes américaines, et notamment de grands industriels américains, qui ont dit, nous on n'est pas d'accord. Parce que le pouvoir et la puissance, ça ne se joue pas qu'au niveau international et ça ne se joue pas qu'au niveau national. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'émergence aussi d'acteurs secondaires qui existent déjà depuis plusieurs années, notamment les grandes villes. Vous avez peut-être vu aujourd'hui que Paris, par exemple, est devenue ville résiliente. Alors, si vous allez au cours risqué catastrophe, vous saurez ce que ça veut dire. Mais on voit aussi qu'il y a de nouveaux acteurs qui, justement, parce qu'ils ont aussi des intérêts, c'est pas que philanthropique, hein. Les entreprises qui se battent pour le climat, bien sûr, ils aiment les lapins, mais il n'y a pas que ça. Et à la rigueur, peu importe. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un jeu qui est encore en train de se complexifier avec des acteurs qui sont rentrés dans l'opposition et que tout ne se joue pas au niveau mondial. Que les choses sont aussi en train de se construire au niveau global. La question que je vous pose et sur laquelle je conclurai mon exposé, et ça vous le savez, puisque vous avez fait des sciences, c'est que dans un système, la somme des parties, ça ne fait pas le tout. Ce n'est pas parce que vous allez additionner tous les pays, tous les territoires et toutes les villes que vous aurez une planète. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre comment refabriquer une planète, pas simplement en tant que géophysique, la planète ne va pas disparaître. Il y a eu un appel là, dans le monde, sauver la planète, c'est grotesque. Ça n'a aucun sens. Alors vous pouvez sauver la planète, enfin je ne vais pas dire ce qu'on sauve. La question c'est de savoir sur quelle planète vous voulez vivre et quelle est la justice de cette vie-là. Qu'est-ce qui est juste? Ça c'est des questions éthiques, c'est à vous d'y répondre individuellement. Et si on reboucle sur l'exposé de Caroline et les exposés précédents, c'est aussi des questions qui vous posent, vous qui vous interrogent en tant que scientifique. Pourquoi vous faites ce que vous faites et quel peut être votre rôle dans la société? Chacun va décider. Je vous remercie de votre attention. Merci.